réplique qui était Jésus avec Armand Abécassis et le père Olivier Thomas Venard. C'est avec crainte et tremblement que j'aborde le sujet du jour, Jésus. Mais c'est aussi avec un sentiment de fierté. Deux personnalités éminentes ont en effet répondu à mon invitation. Armand Abécassis, grand exégète du judaïsme, qui publie « Jésus avant le Christ », et le père, Olivier Thomas Venard, vice-directeur de l'école biblique de Jérusalem, qui a participé au hors-série du Figaro « Jésus-Christ, cet inconnu » en kiosque le 5 décembre. Dans votre article principal « Et le Verbe s'est fait chair », vous définissez, mon père, la nouveauté apportée par Jésus comme une révolution dans la vision de l'homme, dans la vision du monde et dans la religion. Pouvez-vous nous décrire cette révolution, c'est-à-dire, si je vous entends bien, cette rupture avec tout l'antérieur? Père Venard.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Le terme de révolution en ce qui concerne Jésus n'est pas le mien au départ. Il m'a été suggéré par la lecture de Erich Auerbach, son très célèbre livre sur la représentation de la réalité en Occident. Et il utilise ce terme pour le passage qu'il consacre à l'extraordinaire épisode des larmes de Saint-Pierre, le moment où Pierre, contrit et repentant d'avoir trahi son maître, Yeshua de Nazareth, s'effondre en larmes, etc. Auerbach, grand critique littéraire marxiste, voit là, pour la première fois dans l'histoire des littératures, de la littérature occidentale en tout cas, des sentiments très élevés, très nobles, placés dans le cœur d'un homme de très basse extraction, un marin-pêcheur de Galilée. Dans la littérature de ce temps, et les évangiles ne se réduisent pas à la littérature, mais se placent aussi dans la littérature gréco-romaine, hellénistique de l'époque. Aujourd'hui, le judaïsme de cette époque lui-même, nous l'étudions à l'université hébraïque comme une des variantes de l'hellénisme. Les évangiles apportent cette révolution. Au lieu que les sentiments nobles soient réservés à des rois et des reines dans des palais, au lieu que les personnages de basse extraction soient l'objet de bouffonneries, un marin-pêcheur accusé par une servante à la porte de je ne sais quelle cour à Jérusalem était normalement objet de rire et de littérature bouffonne, pour la première fois, des sentiments très noble, très élevé, et les larmes de Saint-Pierre coulent. À partir de là, Auerbach réfléchit sur ce qui apporte une telle révolution littéraire, entendons-nous, une telle démocratisation, si l'on veut, de la noblesse des sentiments, et il tombe assez vite, bien sûr, sur la notion d'incarnation du Verbe et de reconnaissance d'une intimité jamais atteinte encore entre Dieu et les hommes, qui se joue, si l'on peut dire, dans le ministère de Jésus de Nazareth, et qui culmine, bien sûr, dans cette espèce de christophanie inversée qu'est sa passion et sa résurrection. Donc le terme de révolution, c'est de là que je le prends. Maintenant, entendons-nous, pendant plus de 10 ans, j'ai enseigné le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple, avec des amis juifs à l'Université hébraïque de Jérusalem. Cette révolution, elle se fait entièrement dans un langage, dans des codes et dans des rites qui sont ceux du judaïsme de l'époque du Second Temple. Judaïsme extrêmement profus, si bien que non seulement l'enseignement de Jésus, mais même ses prétentions, s'il en a eu, messianiques, tout cela se comprend dans cette matrice du judaïsme pluriel de l'époque du Second Temple.
Et quand même, deux questions avant de passer la parole à Armand Abécassis. Disons que les sentiments nobles ne sont pas réservés dans l'Ancien Testament, comme on dit aux personnes de haute extraction, Bon, donc, est-ce que il y a vraiment une nouveauté absolue avec Pierre? Et d'autre part, si vous parlez de révolution, Père Venard, c'est bien quand même que Jésus tient un discours qui est autre que celui de ses maîtres, que celui de la religion dont il vient. Donc c'est dans le cadre du judaïsme, mais vous dites quand même que c'est tout autre chose, si je vous ai bien compris, Père Venard.
Jésus se manifeste dans le cadre du judaïsme de son époque par une et se singularise par une autorité extraordinaire. Le problème du judaïsme à l'époque du Second Temple, c'est vraiment la question de l'autorité. On est encore très loin d'avoir un système rabbinique organisé. C'est l'ordination rabbinique n'existe pas et il est considéré comme tout à fait anachronique de parler de rabbin, par exemple, à l'époque de Jésus. C'est seulement après l'assemblée constituante, en quelque sorte, de Yavné, que toutes ces choses-là existent. Le judaïsme de l'époque de Jésus a un tronc commun qui est singulièrement marqué par le temple. Et on ne peut pas faire comme si le temple n'était pas là. Et c'est le tronc commun, la Torah et Eretz Israël, la terre d'Israël. Ces trois symboles essentiels sont nécessaires pour pouvoir être juif à l'époque de Jésus. En dehors de cela, beaucoup de débats existent. On connaît les fameux partis ou écoles, pharisiens, esséniens, sadducéens, hérodiens, proto-zélotes, etc. Et en gros, aujourd'hui, à l'université israélienne, on dit que le judaïsme de l'époque de Jésus est divisé en deux grandes tendances. Une tendance plus sacerdotale qui est très attachée à une vision scripturaire des choses et au culte, et une tendance plus pharisienne, si l'on veut, qui est plus du côté de la halakha, de l'interprétation et volontiers critique du culte. Donc, dans un cadre aussi profus, Jésus se manifeste avec une autorité tout à fait singulière. En gros, il parle, il agit et il laisse agir à son égard comme seul Dieu. En réalité, a le droit de parler ou a le droit de laisser agir à son égard. Le cas le plus extraordinaire, vraiment le plus extraordinaire à l'échelle de l'histoire de religion, c'est le changement dans la formule de l'exorcisme. Jésus pratique des exorcismes en son propre nom. Il dit « je » quand il expulse des démons. Alors, les exorcismes, c'est tout à fait attesté à l'époque, et à l'échelle des millénaires des religions sémitiques, c'est le seul moment où la formule change. Des millénaires avant et jusqu'à aujourd'hui, on est obligé d'exorciser au nom du grand Dieu, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit même bien avant à Babylone, que ce soit aujourd'hui dans l'islam. La seule branche dans les religions sémitiques où la formule d'exorcisme est modifiée et où l'autorité par laquelle on exorcise change, c'est le christianisme. Et cela, à l'échelle de l'histoire des religions, ne peut s'expliquer que si, de fait, un déploiement d'autorité tout à fait extraordinaire a eu lieu autour de ce nom. Ça ne peut pas être une décision simplement humaine des disciples juifs de Jésus qui auraient décidé de changer une chose comme celle-là. Il se trouve que le seul témoignage en dehors du Nouveau Testament avéré que nous ayons de Jésus dans l'histoire, celui de Flavius Joseph, met l'accent là-dessus. Sur un déploiement d'autorité, notamment par la parole, qui a lieu dans ce cadre-là. Donc là, on est au cœur, si vous voulez, en parlant de l'exorcisme, on est un petit peu au cœur de la révolution qui est apportée. On pourrait ajouter un autre élément, mais là, qui se comprend vraiment dans le cadre du judaïsme, c'est que la vision du monde traditionnelle, qui est celle de Jésus, d'un Dieu qui crée par séparation, d'un Dieu qui organise la création, comme le disent les premières pages de la Genèse, en séparant la lumière des ténèbres, la terre sèche des eaux, et puis finalement un peuple parmi les autres peuples, et dans ce peuple, des Lévites. Donc ce Dieu qui crée par séparation, qui met de l'ordre dans le monde, qui donne une loi qui permet à ce qui pourrait être un chaos d'être un cosmos, a mis en place, en tout cas la tradition religieuse, avec lui on va dire, met en place un système de lois de pureté qui sont extrêmement étudiées aujourd'hui, de loi de pureté qui structure la vie quotidienne et qui vise à préserver dans un univers un peu menacé toujours par la maladie, par la profanation, par la mort, préserver un espace de santé, de sainteté et de vie. La loi, l'ensemble des règles qui structurent la vie quotidienne vise à organiser le monde de cette manière-là. Et nous voyons Jésus dans l'Évangile, bien sûr, en bon juif, tenir ces lois de pureté, y compris alimentaire, etc. Les travaux de Daniel Boyarin l'ont très bien montré, mais les faire fonctionner en sens inverse. C'est-à-dire que Jésus est celui qui ne craint pas, en quelque sorte, la contamination de l'impur, notamment lorsqu'il rencontre des malades ou des personnes dont il faudrait s'éloigner. Les évangélistes font un peu comme au cinéma un effet de zoom sur le fait qu'il tend la main, qu'il touche la personne et qu'il la guérit. Là, il y a aussi un aspect révolutionnaire, en ce sens, un changement de sens, mais vous voyez, c'est à l'intérieur d'une vision du monde partagée.
Armand Abécassis, révolution ou non ?
Le principe qui va commander notre pensée sur ce thème, c'est le principe de la création. Le principe de la création ne dit pas simplement que Dieu organise le monde et sépare, c'est vrai, créer, c'est séparer. Mais à partir du moment où l'idée de, à partir du deuxième siècle, l'idée de création ex nihilo entre dans le judaïsme et devient fondamentale et un principe à l'origine de la foi juive, l'idée que il y a une créature et il y a un créateur et ils sont séparés par le néant, et c'est à partir du néant que la créature surgit et reçoit l'être. Il y a une séparation totale. Il ne peut pas y avoir de révolution là-dessus. Une séparation totale entre le créateur et la créature. Ce que veut dire clairement et très rapidement, là où est la créature, même humaine, puisque l'homme est créé également, Dieu ne se trouve pas. Et là où Dieu est, la créature ne se trouve pas. Ce qui signifie que rien dans le monde n'est divin. Rien dans le monde, même l'homme, ne peut être divinisé. Le divin, c'est seul Dieu qui a cet attribut ou cette nature ou cette essence, si on peut parler de l'essence à propos de Dieu. Et ça, c'est un principe aussi qui commande toutes les interprétations qui se font, surtout, principalement, au temps de Jésus. On a parlé, c'est vrai, vous venez de le dire, mon père, qu'il faut replacer Jésus dans son temps. Et son temps est caractérisé par cette recherche de ce qu'on appellera plus tard le judaïsme. Et il n'y avait pas de judaïsme du temps de Jésus. Il y avait plusieurs types d'interprétations de la même écriture, qui est l'écriture qu'on appelle l'écriture sainte, et qui n'est pas sainte du tout. En hébreu, nous disons que l'écriture est une écriture de sainteté. Mais la sainteté n'est pas dans le texte. La langue hébraïque, elle obéit à toutes les langues. Même si elle parle de choses comme on les appelle religieuses. Oui. De la même manière pour la terre n'est pas sainte. Il y a une terre de sainteté. Oui. Et de même, l'homme ne peut pas être saint. Oui. Il n'y a que Dieu qui est saint. Mais l'homme a une relation de sainteté. La relation caractérise la sainteté caractérise la relation et non pas l'essence et non pas l'être.
Oui, mais Armand Abécassis. Dans votre livre, vous voulez montrer que l'esprit de l'enseignement de Jésus ne prend sa place et son sens qu'au sein de la communauté de son peuple qu'il n'a jamais quitté ou renié. Autrement dit, Jésus n'est pas chrétien. Le christianisme est postérieur à Jésus. Vous faites presque de Jésus, dans cette effervescence de la Galilée à cette époque, vous en faites un juif comme un autre. Mais vous venez de me dire qu'il y a un abîme entre le créateur et la créature. Oui, mais alors là, peut-être est-ce une part de la révolution dont parle le père Venard. Le christianisme, c'est tout entier la kénose, c'est-à-dire l'abaissement de Dieu qui va jusqu'à prendre toutes les souffrances de la créature. Il se fait créature, il s'incarne. Et ça, c'est quand même à la fois le message et l'événement, la passion du Christ, À cet égard, on ne peut pas dire que les Juifs peuvent se reconnaître en lui. Il y a là une divergence fondamentale. Mmh. Donc, en fait, votre livre ne traite pas tellement vous voulez rapatrier dans le judaïsme Jésus avant le Christ.
Non, je ne le rapatrie pas. Toute l'histoire, c'est mon idée, moi, ma thèse, si vous voulez. Tout ce qui se passe, et toute l'histoire depuis la naissance jusqu'à sa mort, la croix exclue de Jésus, est une histoire juive. Il se situe parmi également les maîtres et les multiples interprétations qu'il a. Il n'était pas le seul maître. Il y avait plusieurs maîtres autour, avant, après. C'était vrai qu'avant lui, on peut pas parler de rabbin. Parce que, encore une fois, ce qui sera le judaïsme était en train de se chercher. Mais il y avait Hillel, il y avait Shammai, il y avait Shemaïa et Abtalion. C'était les grands maîtres, et c'est des maîtres aussi qui innovaient sur plusieurs plans à partir de leur interprétation de la même écriture. Quand Jésus dit écriture, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est la Torah. Même le Nouveau Testament sera constitué beaucoup plus tard. Si je reprends Saint Jésus dans son contexte juif, cela signifie que, comme pour toute écriture quelle qu'elle soit, même la Torah, la plus forte raison des évangiles, il y a eu des événements qui sont passés, oui. Et ces événements sont, à partir de l'interprétation des Écritures saintes, des événements qui ont été interprétés et reçus. Il n'est pas évident que ce que dit Luc, que ce que dit Marc, c'est cela qui s'est passé. C'est une interprétation à partir de principes théologiques de l'Église élaborés plus tard. Et ce que je dis ici du christianisme est valable aussi du judaïsme. Personne, ni le judaïsme ni le christianisme, ne peuvent dire que ce qu'ils disent et ce qu'ils interprètent des textes bibliques correspondait réellement dans la réalité absolue au texte. Le christianisme comme le judaïsme, ce sont des interprétations de l'écriture sainte.
Avant cette interprétation, vous avez tendance à penser, Armand Abbé Cassis, que Jésus était une sorte de disciple de Hillel, puisque oui. Hillel, c'était le doux sage, et Shammai, oui. Son adversaire, était colérique. Donc, vous citez des pages du Talmud, « Un étranger se présenta devant Shammai et lui dit « Convertis-moi à condition que tu m'apprennes toute la Torah pendant que je me tiens d'un seul pied. » Shammai le bouscula avec la règle de travail qu'il tenait en main. Il se présenta devant Hillel et lui fit la même demande. Il le convertit et lui dit « Ce qui est haïssable pour toi, ne le fais pas à ton prochain. Telle est toute la Torah. Le reste est commentaire. Va, étudie. » Donc, c'est comme si Jésus s'inscrivait dans la lignée de Hillel.
Oui, c'est ce que Jésus dit quand il dit que tu aimeras le prochain comme toi-même. Ça, d'une manière positive, comme principe fondamental de la Torah. Mais Hillel l'avait dit, pas Hillel l'avait dit. Déjà dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Encore faut-il comprendre ce que veut dire aimer le prochain comme toi-même, s'il est possible qu'un muscle comme le cœur puisse contenir l'amour de 6 milliards d'hommes, en tout cas de notre temps. Il faut comprendre aussi ce que cela signifie. Il y a sûrement des révolutions, entre guillemets, dans l'enseignement de Jésus, mais cela était intérieur, comme il est les Shammai, comme Rabban Gamliel ben également, ou Rabbi Yehuda, ou Rabbi Hanassi plus tard, etc. C'est un principe encore essentiel qu'il faut que la lecture de la Torah, comme lecture de l'Évangile, puisse précisément se rappeler continuellement dans sa lecture. Nous ne connaissons que des interprétations. Les interprétations de Jésus font partie du judaïsme. Il n'est pas dit, quand je lis le Béatitude, on en parlera, il n'y a rien de chrétien là-dedans.
Ah. Alors nous allons voir. Père Venard.
Là encore, je me fais l'écho de ce que nous étudions à Jérusalem avec des amis juifs à l'université hébraïque. Nous ne pouvons pas commenter le Nouveau Testament à partir du Talmud. Il y a là vraiment une question de méthode historique qui est pour tous élémentaire. Le Talmud, bien sûr, compile des traditions très anciennes. Mais la première édition de la Mishnah qui se fait par oral et dans des conditions très précises, c'était pas les souvenirs de la mère Michel, c'était une véritable édition de texte, mais se font par oral au deuxième siècle. Et le Talmud est compilé entre le troisième, le sixième siècle et même après. Donc, par méthode, nous évitons de plaquer des textes postérieurs sur les textes du Nouveau Testament, qui sont quand même des textes quasi-contemporains des faits. Il faut dire que tout est écrit dans les deux générations maximum qui suivent les faits, et on peut remonter très haut à travers les lettres de Saint Paul, on peut remonter ces lettres elles-mêmes aux années 50-60, et les traditions qu'il cite pratiquement à des moments contemporains. Donc, il y a un premier point qui me gêne, c'est qu'on ne peut pas, j'allais dire naïvement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser du tout le Talmud, mais il faut trouver des points d'autres sources. Donc, en général, ce que nous faisons, c'est que nous allons voir, est-ce que Philon d'Alexandrie, est-ce que Flavius Joseph, est-ce que l'un ou l'autre des grands écrivains juifs est trop oublié aujourd'hui, Polème, Aristobule le philosophe, est-ce que ces gens-là parlent de ces choses, de ces personnages, etc. Sinon, de ces rites, en fait, ça nous sert surtout pour reconstituer le culte et l'idéologie du temple à cette époque-là. En dehors de cela, il est délicat d'utiliser des textes du Talmud pour commenter les évangiles, d'autant plus que, et ça c'est une tendance qui est très forte en ce moment dans l'université israélienne, enfin chez nos collègues qui s'intéressent à ça, on repère maintenant dans le Talmud, spécialement le Talmud de Babylone, moins à Jérusalem, on repère ce qu'ils appellent d'une manière un peu amusante un toussiyar samoui, un dialogue camouflé. C'est-à-dire que bien des dits attribués à tel ou tel sage, y compris contemporains ou antérieurs, à Jésus, selon la chronologie, bien des dits peuvent être en réalité une réaction, en quelque sorte. Hein. Les fameux passages...
Une réaction à quoi ?
À l'enseignement de Jésus tel qu'il est transmis par le christianisme. Et c'est vrai qu'en Babylonie, sous domination perse, on peut se permettre plus de liberté qu'à Jérusalem. On n'a pas ces mêmes passages dans le Yerushalmi qui est sous domination byzantine. Et non seulement cela, mais un certain nombre de nos collègues ont inversé la logique qui consistait à commenter le Nouveau Testament et les évangiles singulièrement à partir du Talmud, et un certain nombre de dossiers ont été inversés. Là encore, il y a une espèce de révolution, là c'est plutôt une révolution herméneutique. Pendant des décennies, par exemple, on a essayé de replacer l'institution de l'Eucharistie dans des rites rabbiniques, et aujourd'hui, Israël Yuval, par exemple, nous propose l'inverse, c'est-à-dire d'interpréter le Seder de Pessah, pour une part, évidemment, il s'agit de raisons gardées, comme un dialogue, on va dire, exigeant avec l'Eucharistie judéo-chrétienne.
Oui, mais alors, écoutez, là, je ne veux pas me perdre dans ces questions de préséance. Parlons du Sermon la Montagne, parlons des Béatitudes. Pensez-vous que, quand il dit cela, Jésus s'exprime en tant que juif, ou bien rompt-il avec l'essentiel, alors je ne sais pas quel nom il faut donner, mais enfin bon, disons du judaïsme, quelles qu'en soient les tendances.
Permettez-moi simplement de préciser quelque chose qui vient d'être dit. Le Talmud, ce n'est pas la pensée unique. Le Talmud est écrit pour montrer que personne ne peut prétendre connaître le sens ultime des textes et que nous sommes condamnés à l'interprétation. Il n'y a pas un seul exemple dans les traités, les 63 traités du Talmud, où on cite un verset biblique sans mettre en contradiction de rabbin. Cela signifie que personne n'a le sens secret. Et donc le Talmud a été écrit pour élargir et même à l'infini l'horizon de l'interprétation. Et l'interprétation de Jésus est aussi valable que toutes les interprétations qui étaient données dans son temps et même plus tard et jusqu'à aujourd'hui. Le problème pour nous, c'est savoir si ce que dit Jésus est véritablement la parole divine ou pas. Ça, le principe, le Talmud ne l'accepte pas. Personne ne peut posséder la vérité absolue telle que Dieu l'a dans l'esprit. Alors, quand il dictait la Torah à Moïse.
Admettons que ce ne soit pas la parole divine, ça c'est le différent entre le judaïsme et le christianisme, cette parole-là est-elle juive ?
La béatitude est entièrement juive, mais il n'y a aucun principe théologique de l'Église qui s'y glisse. Tout, c'est ce que je montre dans l'analyse des six béatitudes, tout est absolument juif et fidèle à l'enseignement et à l'esprit de la tradition juive, pas ? la douceur, la non-violence, les humbles d'esprit, etc. Mais je cite dans mon livre, vous le savez, de multiples exemples de rabbins avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus, qui ont dit exactement la même chose. Cela signifie que quand Jésus enseignait, il enseignait la tradition juive qu'il avait reçue. Et c'est bien pourquoi je me demande s'il avait véritablement, lui, conscience qu'il enseignait, même si vous avez raison, avec son autorité, s'il enseignait avec la conviction qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était de Dieu. Ce n'est pas évident, il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu, il parlait de l'homme en général, comme Ézéchiel six siècles après, mais jamais il y a une affirmation dans ses béatitudes que ce qu'il dit, c'est cela que Dieu a dit. Ceci dit, bien sûr, dans un autre sens, c'est cela que Dieu a dit. Heureux les doux, bien sûr. Heureux ceux qui cherchent la justice, qui ont faim de la justice. Heureux ceux qui sont opprimés aussi pour la justice. Oui, c'est une parole divine, cela signifie que c'est une parole morale absolue sans laquelle une société ne peut pas exister. Dans ce sens-là, la parole est divine. Mais ce n'est pas en elle-même qu'elle est divine, c'est dans la signification qu'elle porte. Comme j'ai dit tout à l'heure.
Père Venard.
Sur le plan des paroles et des enseignements, l'ensemble de ce que dit Jésus est intégralement juif pour une bonne raison, c'est qu'il est juif et qu'il s'adresse prioritairement aux brebis perdues de la maison d'Israël dans le cadre du judaïsme ou des judaïsmes profus de l'époque du Second Temple. Mais voilà, il y a dans ces judaïsmes un courant apocalyptique, des courants messianiques très forts, très forte, une attente énorme autour du Fils de l'homme, une spéculation, peut-être que plus tard, sous l'influence de Maïmonide, lui-même influencé par l'islam, on est revenu à une conception un peu fruste, très austère, on va dire, de l'altérité divine, mais à l'époque du Second Temple, il y a une spéculation juive sur l'uni-pluralité divine. Menachem Kister a bâti une bonne partie de son œuvre à l'université hébraïque à nous le démontrer, et Daniel Boyarin a beaucoup popularisé cela ces derniers temps. On trouve même aujourd'hui, jusque dans le Midrash, mais aussi dans l'organisation que nous connaissons beaucoup mieux désormais du judaïsme sectaire, comme on l'a appelé, je n'aime pas beaucoup ce mot, plutôt du judaïsme de l'école essénienne, toutes les substructures du futur christianisme. Donc j'allais dire, tout est juif dans ce que Jésus dit, mais y compris la partie christologique de son enseignement. Et c'est cela, à mon avis, qui manque un peu dans votre livre, c'est de ne pas voir à quel point ce messianisme et cette christologie qui va se mettre en place peu à peu a elle-même un très profond enracinement dans le judaïsme de l'époque. À propos des béatitudes, vous avez des analyses absolument magnifiques, je dois dire, sur les béatitudes et sur tel ou tel autre passage. Notamment, vous avez des pages sur le mariage que j'ai trouvé extraordinaire et que tous les futurs mariés feraient bien de lire. Oui, enseignement intégralement juif. On ne comprend pas ce qui ajoute à Jésus, dites-vous, page 250. Mais heureusement, page 265, vous comprenez quand même un petit peu. En tout cas, on ne voit pas ce qu'il y a ajouté, à moins de le considérer encore ici comme fils de Dieu réellement et non symboliquement. Alors, ce que Jésus ajoute, en effet, c'est cette autorité extraordinaire. Moïse vous l'a dit, moi je vous dis, il paraît difficile de réduire dans le cadre de l'ensemble du ministère de Jésus, ce moi je vous dis à simplement une opinion parmi d'autres. Oui. Du reste, Matthieu, en fin de tout ce récit, dit bien, tout le peuple était très étonné parce que, d'abord, il a quand même pas appris, on ne sache pas qu'il fasse partie de la lignée de Chazal, hein, de nos sages, béni soit-il, nous ne savons pas ça du tout, il enseigne avec autorité sans avoir appris. Et donc, qu'est-ce qu'il ajoute ? Il ajoute lui-même. Alors, Jésus savait-il qu'il était Dieu ? On connaît tous ces livres. Aller spéculer sur la conscience et la psychologie d'un individu d'il y a plus de 2000 ans, c'est bien difficile. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est à partir de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il laisse faire autour de lui, de fait, un déploiement d'autorité tel que les uns vont dire blasphème, vont dire tu t'arroges ou on t'arroge des prérogatives qui ne sont celles d'aucune créature, et les autres vont dire nouvelle création. Paul, précisément, qui est lui aussi juif, dans le cadre du judaïsme messianique apocalyptique de son temps. Paul, dans un premier temps, pense que c'est du blasphème et persécute, et dans un deuxième temps, et c'est chirurgicalement précis, étant donné la vision du monde qui est celle du judaïsme, Paul n'a d'autre solution que de dire « nouvelle création ».
Oui. J'interviendrai
ensuite.
Oui. Allez-y. Il y a une question qui se pose à propos des antithèses, par exemple. Bon, on dit, c'est construit sur cette dialectique. On vous a dit, c'est-à-dire tous les maîtres juifs avant lui, la tradition juive en général, le peuple, la masse, la tête, les dents, les membres. Vous avez été habitué à penser ceci. Mais moi, je vous dis. Mais la question est que, dans ce qu'il dit, moi je vous dis, c'est déjà dans la tradition juive, il n'apporte rien de nouveau, pas hein. C'est clair. Et donc, moi je vous dis, ça signifie qu'il apporte une autre autorité. Mais la même chose pour nous, il l'a dit, Rabban Gamliel l'a dit, Rabbi Yehuda a dit, mais cela ne signifie pas que cette parole a une autorité quasi-divine, mais une autorité morale et spirituelle assurée.
Alors, moi... Je disais que j'abordais ce sujet avec crainte et tremblement, mais je vais prendre mon courage à deux mains et vous apporter à tous deux la contradiction. Alors, je vais me fonder sur des travaux importants, hein. Je ne parle pas de ma propre autorité, pour ma part. Le livre de Ratzinger, Benoît XVI, Jésus de Nazareth, et surtout Jacob Neusner, un rabbin parle avec Jésus. Et c'est ce second livre de Jacob Neusner que commente longuement Ratzinger. Ce rabbin, Neusner, s'imagine parmi les disciples de Jésus. Il est là, il écoute son sermon sur la montagne. Il est très impressionné. Il trouve ça absolument magnifique. Mais il coince justement. Finalement, il ne veut pas suivre Jésus. Il y a donc bien là quelque chose comme une rupture, parce qu'il dit que Jésus demande de transgresser des commandements fondamentaux de Dieu. Le quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Le troisième, respect du caractère sacré du Shabbat. Et Jésus dit... Le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Mais surtout, pour Neusner, c'est comme si le Christ, sur la montagne, prenait la place de la Torah, se conçoit lui-même comme la Torah. Dès lors, le Shabbat perd son importante fonction sociale. Jésus est mis au centre. La structure sacrée d'Israël, la cohésion d'Israël en tant qu'Israël se brise, et un élément essentiel de la cohésion du peuple se trouve menacé. Donc, et de même, le commandement, tu honoreras ton père et ta mère, parce que Jésus dit par exemple, qui est ma mère et qui sont mes frères, qui veulent lui parler, il tend la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait ta volonté, la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, un sœur, une sœur et une mère. » Et il a aussi des propos très durs quand il dit « Je suis venu pour séparer, je crois, le frère, le père, voilà, etc. Pour séparer les hommes, en quelque sorte. » Là encore, il y a un commentaire intelligent de Neusner. Il dit, c'est vrai, les disciples de la Torah étaient appelés par leur maître à quitter maison et famille pour lire la Torah, mais la soumission à la Torah les unissait tous sur un pied d'égalité dans la permanence d'Israël dans son ensemble. Et il dit, ce que Jésus m'ordonne, seul Dieu peut l'exiger de moi. Et finalement, il choisit, contre l'enseignement de Jésus, la cohésion d'Israël, la fidélité à son peuple. C'est bien qu'il y a un différent, Armand Abéyassis, entre les Juifs et l'enseignement de Jésus. Et ce différent concerne la pérennité d'Israël, l'ancienne alliance, la persévérance du peuple.
Oui. Non, nous avons l'exemple au VIe siècle avec Ézéchiel, par exemple. Ézéchiel dit qu'il préférerait que les Juifs obéissent à la loi, même s'ils ne croient pas en Dieu. et que Dieu est sacrifié pour cela. Nous avons l'exemple du Midrash, l'interprétation. Abraham vient de se faire circoncire. Il est au troisième jour sous la tente, vous voyez. Et puis il y a trois hommes ou trois anges, peu importe, qui viennent les visiter. Et puis il dit à Dieu, tu attends, il faut que je m'occupe de ces trois hommes, pas dans le texte. C'est aussi cela, l'interprétation que nous avons de ce texte. Cela signifie que Dieu, parfois, recule et qu'il doit reculer par rapport à une problématique humaine très importante qui met en question l'histoire humaine ou la vie des interlocuteurs. Il est clair, par exemple, aussi, comment donner de multiples exemples, que vous avez parlé du Shabbat, et alors que dans la Torah, il y a cet interdit absolu, sinon on risque la mort quand on transgresse le Shabbat, mais s'il y a un homme qui est en danger de mort, bien Dieu et le Shabbat reculent, il devient second par rapport à cela. Oui. Donc sur ce plan-là, Jésus, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Attention, dans mon esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas un maître, que le christianisme est une grande école de spiritualité, simplement replacer les choses à l'endroit. C'est vrai, vous avez parlé du Shabbat, oui. Le Shabbat est fait pour l'homme ou l'homme est fait pour le Shabbat, mais les deux sont valables.
Mais quand même, tu honoreras ton père et ta mère. Oui, oui. C'est un commandement essentiel. Jésus dit dans Matthieu, n'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, oui. Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive, car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. Oui. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Oui. Et ça, si vous voulez, ça reste en travers de la gorge des Juifs, ou en tout cas du rabbin Neusner, qui dit, je suis avec Jésus, je l'entends dire ça, et je m'écarte.
Oui, mais en quoi Jésus disant cela, encore il faut comprendre dans quel sens il le dit, bien sûr, en quoi disant cela, il confirme, ou il dit, ou il affirme, comme on le dira plus tard, que c'est Dieu, que c'est l'autorité divine. Il est clair aussi, par exemple, que quand il dit ce problème de la famille, mais le problème même, la question même de la tradition et de la transmission, elle reporte sur le fait que les enfants contestent leurs parents, parce qu'ils ne sont pas là pour répéter leurs parents, ils sont là pour recevoir, c'est cela la tradition, et pour l'interpréter par rapport à la situation dans l'espace où ils sont. Donc la tradition, bien sûr, à la limite, c'est le respect des parents, l'amour des parents, mais un fils, la filialité, cela signifie la contestation dans le respect de ce qu'on reçoit. Sinon, que veut dire l'histoire si elle n'avance pas et si la filialité n'en met pas en question d'une certaine manière la paternité.
Père Venard.
Pour revenir à votre question sur Shabbat et puis respect filial. Alors, encore une fois, Jacob Neusner, c'est une époque dans l'étude des rapports entre le judaïsme et le Nouveau Testament. Je voudrais insister sur le fait que il faut un paradigme historique. C'est un littéraire au départ et un philosophe qui vous dit ça, mais qui a été converti à la nécessité d'une méthodologie historique un peu précise, sans quoi tout est dans tout à un moment donné. Donc Neusner, dans ce cadre-là, fait figure de quelqu'un qui a beaucoup compté, mais qui encore est dans un certain plaquage rabbinique sur le Nouveau Testament. Il n'est pas sûr qu'à l'époque, ceux qui, pour lui, Neusner, dans cette fiction où il s'imagine disciple de Jésus, ceux qui le choquent auraient choqué de la même manière un juif de cette époque. En ce qui concerne le Shabbat, on a dit beaucoup de bêtises à propos des ruptures que Jésus aurait faites avec le judaïsme sur le Shabbat, sur la pureté alimentaire, sur beaucoup de choses. Et il a si peu fait de rupture que la première génération de chrétiens va s'interroger, ce qui montre d'ailleurs la fidélité à sa parole dans la transmission du Nouveau Testament, alors que la grande question qu'il se pose en accueillant des goyim, c'est est-ce qu'il faut ou non circoncire les garçons ? Personne n'a osé créer une parole attribuée à Jésus qui dirait oui ou non. Il y a ce qu'on appelle une isolated tradition, et là je voudrais quand même mettre un petit peu en garde. Les évangiles ont une prétention historique forte, et aujourd'hui on est vraiment revenu du rationalisme du 18e et du 19e siècle. Ce ne sont pas que des interprétations, et on ne peut pas les réduire à du midrash. Il y a une part midrashique dedans, mais
c'est quoi le midrash? Rappelez ce que c'est quand même.
Tous les deux, vous savez, mais enfin, on ne sait pas très bien finalement. Il y a plein de définitions. J'ai dans mon cartable un article de José Costa sur la définition du Midrash. En gros, ça veut dire commenter l'écriture par l'écriture.
Ce sont des récits quand même,
si l'on veut. C'est éclairer une écriture par ou une problématique de l'existence par rapport à des écritures elles-mêmes mises en série. Non. En tout cas, en ce qui concerne les textes des évangiles, ils se manifestent et ils sont très singuliers par une prétention à la référentialité historique. Il y a eu, il y a quelques années, un grand colloque sur justement les rabbins de l'époque de Jésus, et tout le monde reconnaissait que le seul mouvement qui a déclenché une biographie, à proprement parler, puisque les évangiles aujourd'hui sont classés, depuis les travaux de Richard Burridge, comme des bioi antiques, le seul mouvement, c'est celui qui est autour de Jésus. Et c'est certainement lié à cette autorité extraordinaire qui se déploie en lui. Donc ce qu'on a raconté sur le Shabbat, le Fils de l'homme, etc., il faut aller voir de près, mais dans bien des cas, la rupture n'est pas là où l'on croit, et spécialement pour le Shabbat, il suffit d'aller du côté des manuscrits de la Mère Morte. En fait, la plupart des débats où Jésus semble apporter une rupture, qui a été interprétée comme une rupture avec le judaïsme, en fait, on trouve des parallèles, et d'ailleurs qui montrent à quel point c'est historiquement précis, dans les manuscrits de la Mère Morte. Par exemple, si ton animal tombe dans un puits, un de nos collègues de Boston a fait une très belle typologie finalement des différentes positions prises par des sages. Donc autour de cela, il n'y a pas de difficulté.
Mais
qu'il ajoute, en revanche, et vous avez raison, c'est qu'il demande, il a des exigences que normalement, seul Dieu peut avoir, et notamment de tout quitter pour le suivre.
Voilà.
Et là, en effet,
et c'est là non. que
et par
je
rapport,
je sais pas si Neusner est périmé, mais c'est ça que Neusner, justement, par fidélité à Israël, refuse. Et donc il dit je suis avec Jésus, je l'écoute, je suis contemporain, mais ça je ne peux pas l'accepter. Et je voudrais vous demander, Père Venard, si effectivement il y a si peu de différence, si tout ce que nous apprenons fait de Jésus finalement un juif, alors pourquoi les chrétiens ne respectent-ils pas le Shabbat?
Mais ça fait un juif tout à fait extraordinaire. Ça n'est même pas, comme on l'a dit, un juif marginal.
Non.
C'est un juif qui, comme d'autres à l'époque, mais simplement, il le fait autour de sa propre personne, prétend résumer tout Israël. Et c'est une sorte, c'est de fait une espèce de refondation d'Israël, comme on le voit dans les manuscrits de la Mère Morte.
Ouais.
Les juifs qui se sont installés autour du maître de justice prétendent être le seul Israël, à tel point que ceux qui ne les suivent pas, même s'ils sont circoncis, ne font pas partie des fils de la lumière, comme ils disent. Donc c'est vraiment dans cette grande question qui est celle de l'époque du Temple, des dernière décennie de l'époque du Temple. Qui a autorité sur la religion? Qui a l'interprétation autorisée? C'est autour de cela que cela pose. Mais tous les débuts du christianisme sont quand même intégralement juifs pendant au moins une génération. Et il se trouve que certains ont refusé, d'autres ont accepté.
Alors, je veux dire, juste deux points. Jésus était ce qu'on appelle aujourd'hui un juif religieux. J'ai été ébahi il y a très très longtemps quand j'ai lu dans les évangiles qu'il portait les petits limes. Il portait les fils des religieux qu'on trouve aujourd'hui. Par exemple, chez Lubavitch, qui les met dehors. Les Sfardim les mettent à l'intérieur. Les Akhenaz les mettent à l'intérieur. Or, aujourd'hui, si Jésus revenait, il passe devant la synagogue. Il entre, même si le cadre a changé. Il entre, il prend un livre de prière et puis il lit. Il passe devant une église, il demandera à quoi sert ce bâtiment. Ça ne veut pas dire qu'il y a une méprise de l'église. Ça signifie que, et comme on a dit, il était parfaitement juif. Je voudrais maintenant, deuxième point, préciser ce que veut dire le Midrash. Le Midrash pharisien, oui, qui existait avant Jésus, pendant Jésus, etc., et qui existe jusqu'à aujourd'hui, et qui commande les lectures talmudiques, midrashiques, commande des commentateurs jusqu'à aujourd'hui. Le Midrash signifie et implique, tel que les pharisiens l'entendent, que le sens n'est pas dans le texte. Et s'il y a quelqu'un qui sait ce que signifie le texte d'une manière absolue, c'est, en parlant symboliquement, c'est Dieu qui le sait, oui. Mais jamais l'homme qui sollicite le texte, qui l'interpelle pas, et l'interpelle à partir de la situation dans l'espace où le temps est, vous voyez, ne signifie pas que par cette interpellation et cette lecture lui donne la certitude qu'elle correspond exactement à ce que pensait Dieu quand il dictait la Torah. Cela signifie pour nous que le sens n'est pas dans le texte, le sens n'est pas dans le lecteur, il est dans la relation entre le lecteur et le texte. Et la lecture, c'est ça le midrash, l'interprétation consiste à enrichir le texte de significations qu'il ne contient pas.
Ah, d'accord. Et le midrash, souvent, cet enrichissement se fait par la voie narrative, non?
Oui.
Beaucoup de midrash sont des histoires.
Mais oui.
Voilà.
Mais
il y a aussi une question importante, parce que ce qui différencie le christianisme du judaïsme, c'est la question de l'élection. Y a-t-il déjà, chez Jésus, une volonté d'élargir l'élection, ou de sortir de l'élection, pour parler à tout les peuples de la terre, où cette volonté est-elle postérieure à Jésus? Faut-il l'imputer à saint Paul? Et puis, question subsidiaire, l'élection pose un problème, très bien exprimé par Pierre Manant. Pourquoi l'immense majorité des hommes ignorerait-elle la loi du vrai Dieu, ou en tout cas serait-elle exclue de ses bienfaits? Mystère de l'élection. Ça reste un mystère, et il se passe quelque chose avec le christianisme. Alors, ouais. Ce quelque chose commence-t-il avec Jésus, ou est-il postérieur à Jésus?
Oui, il faut arrêter ce poncif que quand Jésus arrive, le christianisme, surtout plus tard, bien sûr, il a découvert et ajouté au judaïsme l'universalité. Abraham a été choisi dès le départ, oui, pour que toutes les familles de la terre soient bénies par lui et en lui. C'est-à-dire que l'universalité ne caractérise pas seulement le judaïsme, elle caractérise toute société, tout homme. Hein. L'homme n'est pas un être, l'homme est un être avec. Et c'est avec l'autre qu'il va construire précisément la paix, la justice dans cette relation. Alors, lorsqu'on parle d'universalité, on ne parle pas d'universalisme. L'universalisme qu'on en parle aujourd'hui, du point de vue juif, c'est l'anonymat de l'individu. C'est l'individu transformé en objet, en numéro. Il faut donc que l'universalisme laisse une place à la particularité. Mais seulement, il n'y a pas de particularisme dans le judaïsme, comme on dit aujourd'hui communautarisme. Il y a une individualité, une personnalité.
Mais il y a une élection, oui. Quand même.
Alors, et cette élection, en quoi elle consiste? Cette élection ne consiste pas à des privilèges supplémentaires.
Oui, c'est des responsabilités,
oui,
supplémentaires.
Mais bien sûr, mais cela se lit littéralement. D'après la Torah ou d'après les rabbins, pense que l'homme non-juif est tenu à la morale générale universelle dictée symboliquement par les sept lois de Noé. Dieu appelle Israël et lui Israël, il l'écrase par 613 commandements. Cela signifie que l'élection consiste à accepter, à assumer dans la liberté et la joie des devoirs supplémentaires. C'est cela en que consiste l'élection, ce qui ne fait pas du tout une supériorité par rapport à l'autre.
Alors, Père Venard, pour finir, Jésus met-il fin à cette élection pour changer, non pas pour adresser enfin un message universel, mais pour changer le sens de l'universalité?
Beaucoup de sottises ont été dites sur l'idée qu'une alliance remplaçait l'autre et qu'une communauté venait se superposer à l'autre. En réalité, si on lit bien les passages de Paul, qui n'invente pas le christianisme, et je veux quand même m'insurger contre ce cliché ressassé depuis des années, il y a, pendant le ministère de Jésus, qui s'adresse d'abord aux brebis perdues de la maison d'Israël, quelques passages où il reconnaît une foi extraordinaire chez un non-juif ou une non-juive. La syro-phénicienne, le centurion, etc. Et donc, il y a déjà, pendant son ministère, une ouverture à une invitation au-delà. Et la théologie que Paul va mettre en place, c'est celle que désormais, en Christ, alors il y a quand même non pas un thème, mais une réalité dont nous n'avons absolument pas parlé dans notre entretien, mais qui est absolument centrale pour le christianisme, qui est la résurrection. De fait, d'où vient cette autorité extraordinaire de Jésus dans le christianisme? C'est que des témoins, des femmes d'abord, et un certain nombre de disciples ensuite, l'ont vu ressusciter. Et cette victoire sur la mort qui fait que désormais les lois de pureté changent de sens, en quelque sorte. Ce qui contamine avec le Christ, c'est la sainteté, la pureté, la vie. Il a vaincu la mort. Donc ça, c'est très important. Ce que Paul va dire, c'est que désormais, tous sont invités à entrer dans l'unique alliance qui s'appelle, de ce fait, l'alliance unique et éternelle, comme on le dit à chaque messe. Je voudrais juste, parce que ça a été beaucoup mis dans la publicité autour de votre livre, et je n'aime pas cette phrase, je me permets de vous le dire très, très amicalement, je ne crois pas que Jésus, revenant aujourd'hui, serait plus à l'aise dans une synagogue que dans une église, parce que ce qui lui manque, c'est le temple. Et je pense qu'entrant dans une église, voyant un autel, respirant l'encens, voyant les 7 candélabres sur l'autel, tout cela lui rappellerait quelque chose comme la menorah, les autels et les bonnes odeurs qu'il pouvait sentir à Jérusalem.
Bon, je pense que vous ne serez pas d'accord là-dessus, mais merci à tous les deux. Merci Armand Abécassis. Je rappelle le titre de votre livre, Jésus avant le Christ. Il est publié aux presses de la Renaissance. Père Venard, vous avez donc participé au numéro spécial, au hors-série du Figaro sur Jésus. Et mardi 3 décembre, vous êtes l'invité des rencontres du Figaro Salgavo sur le thème « Jésus, l'histoire et la foi ». La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'héritage des Lumières ». Mes invités seront Antoine Lilkli et Roger Paul Droit. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.